Marc Azéma, archéologue narbonnais, comme on l'a vu en long et en large dans cette première partie. Alors, on a fait un petit peu le point sur ce qu'est l'archéologie aujourd'hui, quelles sont ses missions, quels sont ses moyens, quels sont les problèmes que ça pose parfois, vous l'avez évoqué. Revenons alors sur Narbonne, et vous avez bien précisé que vous, ce qui vous intéresse, c'est de l'archéologie, mais aussi de produire des images, et notamment des films. Vous en avez produit un qui s'appelle, qu'on a pu voir sur certaines chaînes, qui s'appelle Narbonne...
La fille de Rome.
Fille de Rome, voilà. Donc, alors, quand on produit un film comme ça, d'ailleurs... quelle que soit la ville, on est confronté à la fois à des problèmes de reconstitution. Il faut reconstituer quelque chose dont aujourd'hui on trouve difficilement la trace. Expliquez-nous notre cheminement quand vous dites, voilà, je vais créer un film pour montrer ce qu'était la Narbonne romaine. Mais où est-ce que je commence ?
Alors, pour l'anecdote, là, je suis obligé de faire un petit retour à mon enfance. C'est vrai que quand j'étais collégien, j'ai participé je crois que c'était en 80, pour le 2100e anniversaire de la fondation de Rome, avait été lancé un concours par la mairie de Narbonne à l'époque, et Jacques Michaud, qui consistait à faire écrire une rédaction aux collégiens, sur une journée d'un petit romain au deuxième siècle. D'inventer.
Oui, c'était André Mecle qui s'occupait affaires culturelles de l'époque.
Exactement.
De la ville de Narbonne.
Voilà. Donc, moi, j'ai participé en tant que collégien à cette rédaction. Donc, il y a eu un concours et je me suis retrouvé dans les heureux élus à participer à ce moment-là. L'obtention du concours, on était deux classes à avoir été, enfin, une quarantaine d'élèves à pouvoir à ce moment-là aller à Rome, être invité
à Ça a été un déclic, alors.
Alors voilà, c'est pour ça que je vous en parle, parce que ça a été c'est un double déclic. C'est que la rédaction, déjà, c'était de s'immerger, faire une immersion dans le passé, au deuxième siècle de notre ère, et de raconter donc le voyage dans la ville du petit Narbonnais, dans la capitale. Voilà, du voyage dans la capitale. Donc déjà, ça a été un premier déclic. Vous voyez ce que je veux dire ?
Là, ça laisse des traces.
On ne parlait pas d'immersion à l'époque, parce que c'est de l'écriture, mais l'écriture, c'est aussi de l'immersion. On s'immerge dans le passé. Donc cette notion d'immersion, était déjà enclenchée. Et le fait d'aller à Rome, d'être invité officiellement à Rome durant ce voyage, d'être reçu à la mairie de Rome, à la salle des drapeaux, en tant que fille de Rome, on représentait la fille de... Là, ça a été un double défi.
C'était pas rien, oui. Pour un gamin, ça devait être impressionnant, ça.
Ah, c'était impressionnant. En plus, c'était inattendu. On était des collégiens. On ne savait pas trop le programme, mais on s'est retrouvés dans ce contexte-là, je vous dis, la salle des drapeaux de la mairie de Rome, pour recevoir officiellement et symboliquement, en fait, la reproduction de la Louve. Qui est actuellement donc
à Narbonne,
voilà, qui était le cadeau de la mère à sa fille, quoi, voilà, le retour de la mère à sa fille. Donc ça, moi, je l'ai vécu, et ça a été le second déclic où là vraiment j'ai pris conscience définitivement de l'importance de cette ville d'un point de vue historique. Et donc à partir de là, très tôt, je me suis dit, il faut montrer la ville, et il va falloir le raconter dans la poursuite de cette rédaction de collégien. Enfin, ça, c'était inconscient, et dès que j'ai eu la possibilité de faire des films, je me suis dit, il faut que je fasse des films sur Narbonne antique. Donc, j'en ai fait un premier sur le Clos de la Lombarde, je crois que c'est en 96 ou 97. Pour France 3, on a fait un premier film où on a raconté les fouilles des sabriers. Et là, c'était un peu les débuts des images de synthèse. Bon, moi, j'aimais bien les images de synthèse. Je joue aux jeux vidéo. Je fais partie des premières générations de jeux vidéo. Donc, on avait percuté, nos générations, le fait que la 3D allait être importante.
Mais le potentiel que ça représentait.
Voilà. Donc, à travers le jeu, c'est complètement... Mais c'est ça. Les premiers outils sont venus aussi de ce milieu-là. Et là, on avait la possibilité de reconstituer donc en 3D le site du Clos à Lombarde. Et là, avec une équipe, avec des copains qui sont sur 7, à l'époque, qui étaient sur 7, on a eu la folie de faire ça. On a pris Raymond Sabrier avec nous, on l'a fait travailler devant les ordinateurs. Au début, il avait un peu peur, tout ça. Puis il s'est pris au jeu. Et là, on a reconstitué le Clos à Lombarde avec les archéologues. Et cette démarche-là aussi était... pour moi fondatrice, parce que j'étais aussi en train de faire des études d'archéologie en parallèle, donc bon, il y avait le respect, vous voyez, de la méthode scientifique, de toujours faire référence aux textes, aux travaux, de ne pas faire de la reconstitution de manière gratuite. Et à travers ce film, pour moi, ça a été fondateur pour la suite de ma carrière, la suite de mes films. J'ai travaillé sur d'autres secteurs, et dans les années, il y a 2-3 ans, quand l'avènement du musée approchait, et qu'il y avait cette effervescence autour des fouilles des ports, etc., je me suis dit, il faut faire un grand film maintenant sur Narbomarsus, et le faire en reconstituant Narbomarsus, parce que c'est bien de raconter les fouilles sur Narbonne, c'était l'intention première du film, hein, de montrer le travail, parce que j'avais eu la chance depuis 25 ans de filmer les fouilles du Colas Lombard, mais également celles de la Via Domitia. On avait des images inédites découvertes de la Via Domitia. On avait, pendant 10 ans, j'ai filmé avec Corinne Sanchez et notre équipe, on a filmé les fouilles des ports. Donc ça, c'était bien de l'exploiter et de raconter ça, de rendre hommage aussi aux archéologues narbonnais, parce que ça, c'est fondamental pour moi, vous l'avez bien compris, et de faire ça, j'allais dire, entre nous, mais avec cette volonté de vraiment valoriser ce travail, mais il fallait montrer. Et là, en travaillant pendant plusieurs années avec les infographistes, on est arrivé à restituer une image de cette Narbonne antique, de Narbomarsus, et également avec le concours du plus grand spécialiste de la restitution de l'Antiquité, qui est Jean-Claude Golvin, donc qui est quelqu'un qui a travaillé dans le monde antique, et sur tous les grands sites antiques, il a travaillé, etc. Et on continue de travailler ensemble. Et ça, c'est bon, on est amis maintenant, on a des automatismes, mais c'est également un scientifique et un illustrateur. Donc lui, c'est lui qui dessinait les restitutions dans un premier temps. Et ensuite, ça, avec les infographies, on le convertissait en 3D. Et ça, vous voyez, c'est un travail de longue haleine.
Ah oui, combien de temps ça vous a pris, ça?
Alors, la 3D, ça a bien pris 2 ans. Ça a bien pris 2 ans pour le film, sachant qu'en parallèle, on développe toujours un projet de réalité virtuelle, de VR, hein, avec des casques. Vous voyez, on met un casque sur la tête et à ce moment-là, on visite le Colas Lombard, le Capitole, tout ça. Donc ça, en parallèle, on a développé ça, avec le concours aussi de collègues sur la ville. Donc on a travaillé dans ce sens. Et donc pendant 2 ans, et on continue de le faire maintenant, on a vraiment d'un côté fait le film en vidéo et de l'autre côté travaillé avec les infographistes donc sur les 3D.
Et ça a produit donc ce film maintenant
Ce film donc qui est un peu le complément du discours du musée, donc il est actuellement en vente d'ailleurs au musée, dans les librairies, etc. Et c'est un film qui pour nous est important parce que voilà, il restitue la vision que nous avons de la ville.
On peut imaginer un petit peu ce que Narbonne a pu être
aussi
à ce moment.
Voilà, donc ça devient un outil pédagogique aussi pour les enseignants, pour les touristes, etc. Ça a été fait aussi avec le concours d'Olivia Ruiz qui nous a prêté sa voix pour la narration fictionnelle du film. Et alors, c'est quand même une aventure qui est encore en cours, parce que l'idée maintenant, et je vais vous faire une petite révélation, c'est qu'on est en train de travailler sur une grande exposition au Narbovia, qui sera un peu le complément et l'aboutissement de ce film.
De ce film, une sorte de prolongation. Oui, ben on va y revenir à la fin de l'émission.
Voilà.
Je prends notre marque. Oui. Et alors, une question que beaucoup peuvent se poser, pourquoi il reste plus rien à Narbonne? On a tendance à penser que c'est les invasions barbares qui ont tout détruit. Or, paraît-il, vous allez me dire ce que l'archéologue en sait, paraît-il, les Romains eux-mêmes réemployaient énormément de pierres, par exemple, et ils détruisaient eux-mêmes certains de leurs bâtiments pour s'adapter peut-être à la situation historique de l'époque. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ce sont surtout les Romains qui ont détruit, par exemple, le Forum ou ce genre de bâtiment?
L'histoire de Narbonne, elle est compliquée, comme vous le savez, à toutes les périodes. Du fait de l'emplacement de Narbonne à ce carrefour crucial sur ce territoire, on a toujours été, d'un côté de l'autre, on a été visité par tout le monde. On a été, à un moment donné, capitale, on a été, d'un côté de l'autre, etc. Donc il y a toujours eu des mouvements, parfois des heures, etc. Et également, ben, ça a fonctionné un peu aussi comme nos villes actuelles. Quand vous avez un bâtiment qui est rasé, qui est remplacé, donc il y a de la reconstruction, il y a du réemploi, il y a du démantèlement. Puis après, il y a des périodes économiques plus difficiles, hors des modes. Ouais, il y a des monuments qui plaisent moins, donc on les détruit ou on les démonte et on récupère. Par contre, on récupère, on remblaie, donc, ce qui fait que la ville elle monte quelque part, ce qui fait que quand on découvre la Via Domitia, on est à 2 mètres, enfin, en moyenne, on est à 2 mètres.
Oui, sous
ça étonne toujours les gens, mais pourquoi c'est en dessous, vous savez, parce qu'il y a des remblais et que la ville, elle a continué de vivre et qu'après, ça s'entasse, ça fait un millefeuille qui fait que d'une période à l'autre, ben, voilà, la ville, j'allais dire, elle monte. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu, je vous dis, à la fois des facteurs liés à du passage plus ou moins violent.
Mais ce ne sont pas quand même uniquement les invasions dites barbares qui ont détruit la Narbonne romaine.
Je pense que c'est la gestion du territoire aussi, le fait qu'on gère l'urbanisme, on le modifie. À un moment donné, on démantèle une partie des temples pour aller consolider les quais de l'avant-port romain, parce que les archéologues, Corinne avec son équipe, ont démontré qu'il y a pas mal d'éléments de temples, voire même du Capitole, qui sont dans les quais, vous savez, les fameux quais.
Ah oui, qui ont été transportés là-bas.
Et oui, qui ont été transportés pour consolider. Alors ça ne s'est pas fait, ça s'est fait sur plusieurs siècles. Donc, c'est ça. Aussi, il faut percevoir ça. C'est que
oui, il y a le temps.
La période, c'est un temps long aussi. C'est pas... C'est 4 à 5 siècles de rayonnement de la ville antique, avec du déclin à un moment donné, évidemment, et puis des transformations. C'est-à-dire, il n'y a pas obligatoirement des chutes d'une période à l'autre. C'est qu'il y a des transitions. Bon, puis il y a des phénomènes de mode aussi, des phénomènes de mode architecturaux, qui fait qu'on adapte les monuments. On le voit après avec les remparts, qui sont des remparts.
Oui, voilà. Qui ont permis de resauver un certain nombre de ces pierres romaines que l'on retrouve aujourd'hui.
Exactement, grâce à Paul Tournal, justement.
On marque une seconde pause, Marc Azéma. On va se retrouver dans une troisième partie où on va peut-être évoquer aussi ces grands chantiers auxquels vous avez fait allusion tout à l'heure.